Canal Sud 92.2, bonjour tout le monde. C'est parti pour contre-histoire. Alors, je vais vous extraire, autant que je pourrai, d'une BD qui fait quand même près de 220 pages. Un grand A4, ça fait beaucoup de bulles, mais c'est complètement passionnant. Alors, c'est fait par Étienne Davodeau et Benoît Colombat. Ils ont grandi sous la Ve République. Mais où pointe déjà la crise? L'Italie et l'Allemagne ne sont pas les seuls pays à subir la violence politique. Sous les présidences de Pompidou et de Giscard d'Estaing, le pays connaît aussi de véritables années de plomb, à la française. Dans ces années-là, on tue un juge trop gênant, on braque des banques pour financer des campagnes électorales. On maquille en suicide l'assassinat d'un ministre. On crée de toutes pièces des milices patronales pour briser les grèves. On ne compte plus les exactions du service d'action civique, le SAC, la milice du parti gaulliste, alors tout puissant. Cette violence politique est une tâche persistante dans l'ADN de cette Ve République à bout de souffle. Et elle est aujourd'hui largement méconnue. Alors, Davodeau et Colombat vont remédier à cet oubli. Alors, à l'attaque. En sillonnant le pays à la rencontre des témoins directs des événements de cette époque, députés, journalistes, syndicalistes, magistrats, policiers ou encore anciens truands. En menant une enquête approfondie, Étienne Davodeau et Benoît Colombat nous révèlent l'envers sidérant du décor.
Je veux aller où l'air est plus doux, où la colombe vole en dessous, où le printemps entre un jour comme un fou. Vous saisis au revers, au détour d'un chemin vert, et vous dites ça va pas comme ça. Changez tout, changez tout. Votre monde ne tient pas debout. Changez tout, changez tout.
Me voilà donc dans la peau du journaliste de France Inter, Benoît Colombat, et aussi alternativement de quelques grands magistrats ou greffières, pour l'enquête qui nous éclairera un peu sur l'assassinat du juge François Renaud. C'était le 3 juillet 1975, à 2h42 du matin. Il avait 52 ans. C'était la première fois depuis la Libération qu'un haut magistrat était assassiné. Un choc pour le pays tout entier. Le juge François Renaud était un magistrat qui dérangeait, tenace, incorruptible. Il n'avait pas froid aux yeux. Et puis, il était membre du syndicat de la magistrature, classé à gauche. Ça, après la chienlit de mai 68, comme disait De Gaulle, ça n'était pas anodin. Ancien résistant, passé par la justice coloniale, il n'éprouvait aucune fascination pour les voyous. Il leur faisait la guerre. Et ça chauffait, ici, à l'époque. C'est rien de le dire. Lyon, c'était un peu la capitale du crime. On l'appelait Chicago sur Rhône. Des affaires de prostitution, de corruption éclaboussaient la ville. C'était aussi l'un des bastions du SAC. Ne l'oublions pas. Le SAC, tu peux nous rappeler ce qu'était le SAC? C'était le service d'action civique, même s'il n'avait que peu à voir avec le civisme. Et c'était quoi exactement son rôle? C'est bien ça le problème. Officiellement, le SAC était une simple association, créée en 1960 par des fidèles du général de Gaulle, comme Jacques Foccart, Alexandre Sanguinetti ou Roger Frey, pour défendre sa pensée et son action. 2 ans plus tôt, en 1958, ces mêmes fidèles avaient soutenu l'arrivée au pouvoir du général, dans des conditions proches d'un coup d'État. Il s'agissait pour les gaullistes de contrer un autre coup d'État mené au même moment par des militaires partisans de l'Algérie française. Et en 1961, à Alger, un putsch tente à nouveau de renverser le pouvoir. Dans le tumulte de la guerre d'Algérie, le rôle du SAC consiste donc à verrouiller le pouvoir gaulliste contre tout débordement potentiel. Concrètement, les militants y font quoi sur le terrain? Un véritable travail de service d'ordre. Ils surveillent les meetings électoraux, protègent les candidats gaullistes, effectuent des opérations coup de poing contre les militants communistes. Une sorte de police privée. Oui, le SAC fonctionne comme une véritable organisation parallèle au pouvoir. Au pouvoir dont il a la bénédiction. L'ancien patron du SAC de 62 à 69, ex-garde du corps du général, Paul Comiti, avait une expression assez éclairante. Il disait qu'il s'agissait de s'adresser au bon Dieu sans passer par ses curés. Le bon Dieu, c'était De Gaulle? Bien sûr. Sauf qu'au nom de l'idéal gaulliste, le SAC se transforme en organisation mafieuse. Une mafia? T'exagères pas un peu? Non. Je ne te dis pas que c'est la même chose qu'en Italie, mais ça y ressemble, par certains accents, par certains aspects. Des truands intègrent rapidement le mouvement. Parmi eux, certains ont rendu de grands services pendant la guerre d'Algérie. Leur carte tricolore du SAC les protège. Des gens sont assassinés en toute impunité. Le président Pompidou tente d'épurer le mouvement en 1969, mais ça ne change pas grand-chose. Dans les années 70, le SAC possède des relais puissants au sein de la police, de la justice, du syndicalisme. C'est un véritable État dans l'État, dirigé de façon souterraine par le monsieur Afrique du gaullisme, Jacques Foccart. Mais ensuite, en 1974, Giscard est élu président. Ce n'est pas un gaulliste. C'est vrai, mais ça ne change rien. Il doit aussi composer avec le SAC. D'ailleurs, il choisit un premier ministre soutenu par le SAC. Chirac? Voilà. Même si Chirac a trahi Chaban-Delmas, qui était le candidat des gaullistes, à la précédente présidentielle, les réseaux occultes de Jacques Foccart menacent constamment le pouvoir giscardien, qui n'a donc aucune envie de les provoquer. En décembre 1976, après avoir démissionné de Matignon, Chirac fonde le RPR, une machine de guerre destinée à conquérir le pouvoir avec le soutien du SAC. Mais Chirac ne se qualifie pas pour le second tour en 81. Comment y réagissent les gens du SAC? Entre les deux tours, officiellement, Chirac soutient Giscard. Mais en sous-main, les militants du SAC, cornaqués par Pasqua, font campagne contre lui. Ils espèrent que la victoire de Mitterrand créera le chaos dans le pays, ce qui leur permettra de récupérer le pouvoir comme un fruit mûr. Il faudra attendre la tuerie d'Auriol le 18 juillet 81, où toute une famille sera massacrée par le SAC, pour que le mouvement soit dissous. Voilà qu'arrive Robert Darenque, ancien journaliste sur RTL. « Messieurs, je suppose que c'est avec vous que j'ai rendez-vous. »« Oui, bonjour, je suis Benoît Colombat, journaliste à France Inter. »« Étienne Davodeau, auteur de bande dessinée. »« nous préparons un documentaire sur l'assassinat du juge Renaud. Un documentaire ? En bande dessinée ? Allons bon. J'ai bien connu le juge Renaud. Je l'ai rencontré quand il est venu à Lyon. Quand j'ai su qu'il était juge d'instruction, évidemment, ça m'a intéressée. Curieusement, lui, membre du syndicat de la magistrature, et moi qui étais de droite, voire d'extrême droite, on a sympathisé. On est même devenus très amis. Robert Paranque, 80 ans, journaliste correspondant de RTL à Lyon. Ça m'a beaucoup servi. Il me tuyautait sur pas mal d'affaires en cours. Grâce à lui, je sortais des scoops. Il avait de la gueule. C'était un beau mec. Ça changeait des autres magistrats lyonnais, bourgeois, cul serré. Lui, il se promenait avec des vestes de couleur. Il avait une vraie prestance. Parlez-nous du hold-up de Strasbourg.
Le hold-up de Strasbourg.
Le 30 juin 1971, 5 hommes armés patientent à l'intérieur de l'hôtel des postes de Strasbourg. Quelques jours plus tôt, ils se sont présentés comme serruriers et ils ont tranquillement modifié les portes. Y revenir ce matin-là est donc assez facile. Les convoyeurs arrivent accompagnés de policiers. Le transfert des fonds commence. Les 5 hommes se font rapidement remettre les sacs et s'enfuient à bord d'une simple estafette. Ils prennent la direction de Lyon en changeant plusieurs fois de véhicule et disparaissent malgré d'innombrables barrages de gendarmerie. Le butin dépasse les 11 millions de francs, soit 1 800 000 euros. Ils viennent de réussir le casse du siècle, qui restera le plus lucratif en France au XXe siècle. Ils en enchaînent quelques autres, puis, se sachant repérés, ils abandonnent leur estafette au coin d'une rue. Et le chef du gang appelle la police. « Ne tardez pas à récupérer le véhicule, » leur demande-t-il en substance. « Il est plein d'armes. On ne voudrait pas que des enfants le découvrent avant vous. » et qu'il leur arrive un accident. On les a d'abord surnommés le gang des estafettes, puis le gang des Lyonnais. À sa tête, les policiers ont identifié Edmond Vidal, dit Momon. En 1974, le gang est arrêté. Momon Vidal se retrouve face au juge Renaud. Le juge Renaud m'a laissé entendre que l'argent du hold-up de Strasbourg avait dû être rapatrié au profit d'un parti politique de l'époque, l'UDR, l'ancêtre du RPR et de l'UMP. Il vous l'a dit aussi clairement que ça ?
Ah oui !
Il avait réussi à savoir que l'avion d'un des patrons du SAC de Lyon, Jean Schneebelet, s'était posé à Strasbourg ce jour-là. Il a fait le rapprochement entre le passage de cet avion et le fait que le gang des Lyonnais passait à travers tous les barrages de police et de gendarmerie déployés après chaque hold-up. Après le casse du siècle, lors de l'émission télévisée Les dossiers de l'écran, le substitut lyonnais Colcombet lâche une phrase qui résonne longtemps. « Nous espérons ne pas avoir à découvrir » que l'argent du hold-up de Strasbourg n'a pas servi à acheter des hommes politiques.
Je veux aller dans l'après-midi d'un jour où rien n'est interdit, où le bonheur sans faire de comédie vous salue sans manière et vous parle à cœur ouvert et vous dit qu'est-ce que t'as bien fait.
Vous vous souvenez de la réaction du juge après l'émission ?
Il a foutu mon enquête en l'air !
A râlé le juge Renaud. Pourquoi foutu en l'air ? Parce que balancer ça sur la place publique,
c'est porter un coup sévère au secret de l'instruction et à l'effet de surprise. Les indices éventuels auraient pu se méfier. À partir de là, il semblait plus inquiet. Non, mais le bruit courait qu'il était menacé de mort. Des détenus étaient montés sur le toit de la prison en criant « À mort, Renaud, on aura ta peau !» Ils me disaient « Ils oseront jamais. »
C'était quand, ça ?
Quelques mois avant sa mort.
Il vous confirme qu'il est sur la piste politique ?
Ah oui.
Et il a peur ?
Eh ben non.
Son passé de résistant, puis de magistrat dans la brousse, prouve son courage. Il faut savoir que pendant la guerre, ce gars a remonté seul un convoi allemand à moto en le mitraillant. Alors il restait égal à lui-même, flamboyant, fanfaronnant, mais pas inquiet. Et puis un jour, il me dit « J'ai reçu la visite de deux patrons du SAC. Ils étaient venus pour faire pression sur lui. » À l'époque, le SAC était déjà contaminé par le milieu.
Au SAC, il y avait des truands, comme Jean Schneble et Jean Auger, dit Jeannot Lacuillère. Pas mal de flics de la PJ ou de la Sûreté avaient aussi leur carte du SAC, en plus de leur carte de police.
Jeannot Lacuillère, c'est un surnom étrange, ça lui est venu comment ?
Auger et Schneble possédaient chacun un réseau de bistrots et de machines à sous sur Lyon. Ils étaient en guerre. Jeannot Auger était un drôle de personnage. Il était pied noir. Pendant la guerre d'Algérie, il avait aidé les services secrets français contre le FLN et puis contre l'OAS. Et à Alger, il torturait les gens en leur arrachant un œil avec une petite cuillère, d'où son surnom.
Est-ce que, selon vous, Edmond Vidal était aussi lié au SAC ?
Au cours de leur procès, le juge Renaud a réussi à mettre une quinzaine de hold-up sur le dos du gang des Lyonnais. Mais il en manquait deux, dont celui de Strasbourg. Pendant ce procès, Vidal a dit qu'il avait fait des braquages politiques. Et il laissait entendre qu'il travaillait pour le SAC. Il a expliqué avoir posé des micros dans la chambre d'hôtel d'un élu de l'opposition, Gaston Defer.
Carrément.
Pour vous, qui a tué le juge Renaud ?
Bon, qu'il y ait eu à Lyon 10 ou 15 truands qui voulaient sa mort, c'est possible.
Mais je suis persuadée depuis le début que c'est le SAC qui a fait le coup et que c'est un mobile politique. Je suis catégorique. Parce qu'il fallait éliminer ce juge qui faisait chier tout le monde et qui voulait prouver que l'argent des hold-up servait à alimenter les caisses d'un parti politique.
Comment avez-vous appris sa mort ?
Vers 4 ou 5 heures du matin, un flic m'a appelé.
Votre premier sentiment ?
Je me suis dit, ces salauds, ils l'ont eu.
Je n'ai jamais été entendue, pas une fois. C'est bien le scandale, alors que les flics savaient qu'on était amis.
J'étais fou, fou furieux. Alors, un an après sa mort, avec des copains, une nuit, sur les plaques de rue de la montée de l'Observance, on a posé de fausses plaques autocollantes que j'avais fait fabriquer. Et on a posé une gerbe de fleurs sous chaque plaque.
Et il y a une vignette avec le dessin des plaques.
Rue du juge Renaud, assassiné par le milieu, oublié par la justice.
Elles sont restées longtemps ?
Oh oui, la matinée. Mais à l'époque, sur RTL, les correspondants locaux avaient une rubrique le matin. Là, j'avais un scoop.
Alors, Robert Daranque, vous êtes en direct. Qu'est-ce qui se passe à Lyon ?
Eh bien, cette nuit, des inconnus ont changé les plaques de rue de la montée de l'Observance. J'avais aussi prévenu l'agence France Presse et Le Progrès. Le lendemain, nos fleurs étaient en photo dans le journal. J'aimais bien faire des canulars. C'est une affaire enterrée à jamais. curieusement, par un type que je connais, le juge Fenech, proche du pouvoir de l'époque. Vous avez pu en parler avec lui ?
Bien sûr, je lui ai dit ma façon de penser.
Il m'a répondu : on n'a rien, je n'ai aucune preuve, on ne peut rien faire.
Alors ?
Très intéressant. Ce juge devait être un drôle de zèbre.
Ah oui, il se faisait une très haute idée de sa fonction. Et en même temps, il fréquentait les mêmes bars et boîtes de nuit que les voyous. Il n'hésitait pas à les défier sur leur territoire.
Il existe une anecdote édifiante à ce sujet. Un jour, au Sainte-Marie-de-la-Mer, en Camargue, a eu lieu une fête gitane. Le gang des Lyonnais était là. Le juge Renaud se pointe et il invite à danser la compagne de l'un d'eux. Momon Vidal est là. Ils sont tous furieux. Tu imagines la tension ? Mais personne n'ose bouger. Le juge repart, triomphant. C'est le genre d'exploit qui assure une réputation. Il méritait bien son surnom de shérif.
Voilà, nous sommes attendus.
Nicole Renck est l'ancienne greffière du juge Renaud. C'était une personnalité phénoménale. Les juges étaient très classiques. Lui, il avait du style. Il avait le sens de la hiérarchie et en même temps, c'était un rebelle. Vous savez, certains policiers ne sortaient des affaires que quand ils savaient que c'était lui qui était de permanence. Ils le choisissaient. C'était pas pour lui déplaire.
Et Edmond Vidal, du gang des Lyonnais, vous l'aviez croisé ?
J'étais là, lors de son face-à-face avec le juge Renaud. Il n'a pas dit un seul mot. Je tapais les questions du juge et 3 points de suspension pour les réponses de Vidal.
Il n'a pas parlé du sac ?
C'est le juge Renaud qui m'a parlé du sac, au moment du hold-up de Strasbourg. Jean Schnebelé, caïd lyonnais et membre du SAC, avait un avion privé qui a décollé de Strasbourg juste après le hold-up, au moment où la police a perdu la trace des braqueurs. Le juge avait même découpé des articles dans la presse sur le rôle trouble de Schnebelé, des articles qu'il avait annotés. François Renaud et Jean Schnebelé se connaissaient bien. Ils étaient ensemble dans la résistance pendant la guerre. Bien des années après, ils se sont croisés dans un bar.
« Ah tiens, salut François !»«
Salut Jean !»«
Qu'est-ce que tu deviens ?»«
Moi, je suis devenu le plus grand truand de Lyon. »«
Ah ouais ?»«
Eh ben moi, tu vois, je suis le plus grand juge de Lyon. »
Leur amitié s'était arrêtée là. Mais le juge était sur la trace du voyou. Quelques jours avant d'être abattu, il m'avait dit
« Ça y est, la petite, je vais les encrister. »
C'était son mot, ça. La petite, c'était le surnom qu'il m'avait donné.
Les encrister, ça désignait qui ?
Les gens au-dessus. Il disait que ce soit le pape ou le président de la République, des députés ou des sénateurs, j'en ai rien à foutre. Si quelqu'un doit aller en tôle, il ira.
Il serait allé jusqu'au bout. La mort du juge Renaud, c'est politique. Je pense que je peux raconter ça maintenant. Plus tard, dans le cadre de l'enquête sur sa mort, Momon Vidal était interrogé par un des juges qui avait repris le dossier. Le voilà qui explique qu'il avait dans ses voitures des macarons bleu-blanc-rouge officiels. Je commence à noter ça dans le procès-verbal. Et là, le juge me dit « Non, non, ça, il faut pas noter. »
Et moi, j'ai obéi. J'aurais dû l'acter au procès-verbal. Il y a un article du code pénal qui le permet. Je regrette. J'étais trop gamine à l'époque.
Vidal disait vrai, j'en suis convaincue. C'était sans doute les macarons utilisés par le sac, hein ?
Comment avez-vous appris la mort du juge ?
À la radio, France Inter, en prenant mon petit déjeuner.
J'étais comme assommée. Je suis venue au bureau, et quand je suis arrivée,
Des policiers étaient en train d'effectuer une perquisition. Tout était par terre. J'avais l'impression que Renaud était l'inculpé. Ça m'avait vraiment choqué. Plus tard, j'ai appris que tous les documents portant le nom de Schneebelé, que le juge m'avait montré, avaient disparu du dossier judiciaire. Vous avez été entendu par les enquêteurs ?
Eh ben non. Plus exactement, j'ai été entendu 6 ans plus tard.
Alors que vous étiez celle qui connaissait le mieux les dossiers du juge.
Je pense que c'est voulu.
Ensuite, de 88 à 90, j'ai choisi de travailler avec le juge Fenech, en charge de l'enquête sur la mort du juge. J'ai pu lui remettre ces fameux documents que j'avais copiés. On a convoqué Schneebelé. Je pensais voir arriver le parrain. Mais c'était un type pitoyable qui pleurnichait en disant qu'on l'accusait de tout. Quand il est sorti, Fenech m'a dit « Si vous aviez eu des mitraillettes à la place des yeux, ce gars était mort. » Le temps passe et puis un jour, il pose le dossier Renaud sur mon bureau. Non-lieu.
De changer tout, pour une vie qui vaille le coup. Changer tout, changer tout, changer tout.
Là, je suis partie. Je ne voulais pas être complice de ça. J'ai demandé mon changement de service. Je lui en ai beaucoup voulu. Un dossier comme ça, il faut le garder en vie des dizaines d'années. La justice a abandonné le juge Renaud. C'est lamentable. Le juge travaillait souvent avec le commissaire Pierre Richard, qui a d'ailleurs mené l'enquête sur sa mort. C'est vrai, ils se connaissaient bien. Et ils s'appréciaient. Parfois, quand il rencontrait le commissaire, le juge me disait « Allez boire un café, la petite. Allez vous balader. » Alors le commissaire Richard en sait forcément plus que moi. Pourquoi dit-il que ce n'est pas politique ? J'en sais rien. Qu'est-ce qu'il a à craindre ? Ils sont presque tous morts. D'ailleurs, c'est pas un craintif, le commissaire Richard. Allons donc rencontrer ce fameux commissaire. Je suis curieux d'entendre son opinion sur un événement qui s'est produit une dizaine de jours avant la mort du juge. De quoi tu parles ? Robert Darranque nous en a brièvement parlé. Ce jour-là, François Renaud reçoit la visite de 2 hommes proches du sac, notamment l'avocat Pierre Lemarchand. Ce gars a intitulé son autobiographie « Le barbouze du général ». Tu vois le genre. Son nom a été cité dans quelques affaires troubles de la Ve République, comme la disparition de Ben Barka, dont il faudra qu'on parle un jour. Après cette visite, le juge Renaud confiera à un ami que ces 2 hommes étaient venus lui expliquer qu'il devrait être plus prudent dans ses recherches sur les commanditaires du hold-up de Strasbourg. Des menaces ? Bonne question. En tant que patron du service régional de police judiciaire, le SRPJ, Pierre Richard a vécu ses années agitées en première ligne. Les années 70 sont tout près de la guerre d'Algérie. Il ne faut pas oublier ça pour comprendre le reste. Certains truands lyonnais ont été barbouzes en Algérie. J'en ai rencontré là-bas. Vous y étiez comme appelé ? Non, après mon concours de commissaire en 60, j'ai été nommé au commissariat de Ménerville, près d'Alger. J'étais volontaire. C'était un sacré merdier. Ensuite, j'ai été nommée à Alger. À Ménerville, l'armée commençait à se désengager. On fermait un commando pour tenir la ville. On a eu des escarmouches avec les Félagas qui m'avaient condamné à mort. Et puis ensuite, avec l'OAS qui m'a condamné à mort aussi. Et ces truands ? Les truands, ils sont récupérés à droite, à gauche, en France, et ils sont envoyés là-bas pour lutter contre l'OAS. Enlèvement, torture, la guerre civile dans toute son horreur. Il y avait plusieurs guerres dans la guerre. En 1972, quand je suis nommée à la police judiciaire de Lyon, j'en retrouve de ces barbouzes. Jeannot Lacuillère, membre du SAC, est là. 2 ans plus tard, en 1974, Giscard d'Estaing vient faire une réunion à Valence. Jamais la PJ ne s'occupe de ça. Mais là, on nous demande de descendre en cas de souci. Je me pointe avec 8 ou 10 hommes et là, on tombe sur des clients à nous, encalibrés, jusque-là, qui faisaient les fierros dans le service d'ordre de Giscard. Il devait même pas être au courant. Un couillon de son entourage devait trouver bien d'avoir des gros bras. Les truands sont toujours du côté du Manche. Des Allemands pendant la guerre, puis, pour les plus malins, de la résistance. L'idée pour cela, c'était de se faire blanchir le casier judiciaire par le SAC. Vous avez travaillé avec le juge Renaud ?
Ah oui !
C'était un type qui dénotait ici et qui fut d'un résistant exceptionnel. Entre nous, la confiance a été immédiate. On dit qu'il avait parfois des méthodes un peu rudes, que par exemple, il faisait incarcérer les femmes de certains truands, comme Edmond Vidal, pour les mettre sous pression. Vous en pensiez quoi ?
J'étais d'accord avec ça. On ne peut pas faire la police à Lyon avec des bonnes sœurs.
Parlons du hold-up de Strasbourg. Que pensez-vous de l'hypothèse du juge qui voudrait que ce casse ait servi à financer le parti au pouvoir via le SAC ?
Mais c'est des conneries, ça !
Le juge vous en a parlé ?
Oui,
il m'a raconté ça. Et moi, je lui ai dit que ça tenait pas debout.
Bon, faut avouer que c'était quelque chose de magnifique, ce braquage. Les mecs s'étaient présentés quelques jours plus tôt comme serruriers pour modifier les portes. Le juge bandait pour cette affaire.
Et l'avion de Schneebele à Strasbourg ?
Connerie sans nom ! Schneebele était déjà rangé des voitures.
Il avait quand même des connexions politiques, non ?
Mais le SAC était presque une institution à cette époque-là.
Justement. Nous nous sommes procurés votre rapport de police sur la mort du juge Renaud. Ici, vous citez les 3 hypothèses qui ont pu conduire à son assassinat. Il restait dès lors à déterminer les mobiles de cet assassinat. Ils peuvent être de 3 sortes. La vengeance personnelle, épisode de la vie privée, jalousie, passion, histoire de femme. La vengeance à caractère politique, passé tumultueux, engagement, imbrication politico-judiciaire. Et la vengeance d'un groupe de malfaiteurs, les victimes de la sévérité légendaire du magistrat. Ensuite, vous évacuez la piste de la vengeance personnelle et vous expliquez pourquoi. Mais vous évacuez aussi la vengeance à caractère politique, mais sans dire un seul mot dessus. Vous ne vous consacrez donc plus qu'à la 3e piste.
C'est ça.
Au vu de la brève rétrospective professionnelle de M. Renaud, aucun élément positif ne permet d'étayer les 2 premières hypothèses. Car s'il est vrai que la victime qui vivait seule et indépendante aimait à fréquenter occasionnellement les établissements de nuit de Lyon, elle était par contre très circonspecte dans ses relations extra-professionnelles. Certes, M. Renaud aimait la compagnie des femmes, mais sa conduite n'a jamais attiré l'attention et sa dernière liaison suivie était des plus discrètes. Il reste donc la 3e hypothèse, la plus plausible, la plus logique, celle d'une équipe de truands décidée à mettre un terme à la rigueur d'un magistrat passionné par sa tâche et peu enclin à faire des concessions. D'ailleurs, selon une rumeur générale circulant à la maison d'arrêt de Lyon, le juge, cordialement détesté par l'ensemble de la population pénale, était qualifié de dur, de répressif. Cette appréciation était confirmée par des tracts présentés sous forme de bulletins d'information émanant du CAP, Comité d'action des prisonniers, relatant les exploits de M. Renaud, surnommé le shérif, grand pourvoyeur de la cour d'assises et qui avait été distribué en mars 1975 aux magistrats de Lyon. C'est dans cette voie que l'enquête a été orientée. Il reste donc la troisième hypothèse, la plus plausible, la plus logique, celle d'une équipe de truands décidée à mettre un terme à la rigueur d'un magistrat passionné par sa tâche, etc., etc. Et puis, il y a cette phrase qui nous intrigue. C'est dans cette voie que l'enquête était orientée. Orientée. Vous pouvez nous en dire plus ?
Et là, le maître de maison change de figure.
« On n'a jamais vu le gang des Lyonnais avec un type du sac. Jamais, jamais, jamais !»
Et le marchand, l'avocat du sac, qui vient voir le juge Renaud dans son bureau, il l'a menacé ?
« C'est pas notre sujet !»
Il l'a menacé ou pas ?
« C'est des insinuations. »
Mais encore,
c'est l'inverse.
Il le prévenait qu'il prenait des risques.
Et si vous croisiez Edmond Vidal après toutes ces années, il se passerait quoi ?
Je sais pas. Entre lui et moi, c'est la haine à mort. Mais le sac mêlé au hold-up de Strasbourg, c'est de la connerie. Tout ça, c'est la faute au magistrat Colcombet du syndicat de la magistrature qui a parlé de ça à la télévision sans la moindre preuve.
Et si nous allions voir François Colcombet ?
Bien sûr, venez donc déjeuner à la maison, nous répond-il. De Lyon, il faut 2 bonnes heures pour rejoindre sa commune de Dompierre-sur-Bresbe dans l'Allier. Magistrat, conseiller à la Cour de cassation, cofondateur du syndicat de la magistrature qu'il préside de 73 à 74, substitut du procureur de la République de Lyon, et ce n'est pas trop pour égrener toutes les fonctions judiciaires et politiques qu'il a exercées. Délégué interministériel chargé de la lutte contre la toxicomanie, député d'ouverture, puis socialiste, conseiller général, maire, membre de la Cour de justice de la République.
Changez tout, qu'est-ce que vous feriez sans nous ? Après tout, changez tout.
Et on arrive à destination. « Soyez les bienvenus, messieurs. Je suis né en 1937 dans cette maison. » La maison a été occupée par les Français, puis par les Allemands, puis à nouveau par les Français à la Libération. J'ai donc vécu mon enfance parmi les soldats. Ma mère disait souvent qu'elle craignait plus pour ses bonnes que pour les enfants. Pour nous, c'était l'aventure. On ne se rendait compte de rien. On était enchantés. Pourtant, mes 2 grands-pères avaient fait la guerre 14-18, l'un y est mort. J'ai donc grandi avec des adultes qui avaient une vision catastrophiste de l'histoire.
Votre famille est de Lyon, non ?
Oui, des soyeux, stéphanois et lyonnais qui ont fait fortune au 19e siècle. Vous savez ce qu'on dit ici ? À Lyon. Cousiner est plus important que d'être riche. Être riche est plus important que d'être intelligent. Être intelligent est tout à fait secondaire. Et avoir un métier l'est encore plus.
Vous avez fait votre droit à Lyon ?
Non, à Paris. L'école de la magistrature avait été créée par De Gaulle en 1958. La guerre d'Algérie bouleversait un pays qui avait besoin d'ordre. Et de l'ordre, ça concerne directement la magistrature. L'école de la magistrature est donc conçue comme une école de dressage des juges. Et nous, jeunes juges, on crée le syndicat de la magistrature. Bien entendu, nos statuts sont marqués par les idées gauchistes de l'époque. On est jeune, bien sûr, déniaisé par la guerre d'Algérie et libéré par mai 68. Nos débuts sont fulgurants.
à tel point que sous notre influence, l'école de la magistrature, pourtant conçue par des gaullistes comme un outil de prise en main, devient rapidement un outil de subversion.
Le juge Renaud était déjà des vôtres?
Ah oui! Lui n'était pas membre fondateur, mais il nous a très vite rejoints.
Pour ma part, j'en suis le troisième président.
Alors c'est vrai qu'il y avait pas mal de gauchistes parmi nous. Mais pas seulement. Renaud et moi avions des principes plus réalistes. C'est-à-dire, par exemple, avoir de grandes idées sans les appliquer, ça sert à rien. Ou, plutôt que de créer de nouvelles lois, appliquer vraiment celles qui existent et les appliquer à tous, pauvres ou puissants. Par ailleurs, dans le sillage de la guerre d'Algérie, dans les commissariats, ça tabassait parfois, même quand ça n'était pas nécessaire. Le syndicat de la magistrature a voulu mettre de l'ordre dans tout ça. Bref, nous étions un peu les anges exterminateurs.
Devenu magistrat à Lyon, vous croisez le sac?
Bien sûr. À l'époque, le sac, ce sont les cartes bleu, blanc, rouge.
Ça les rend intouchables. Dès que vous arrêtez un gros truand, ils vous sortent une carte du sac, bleu, blanc, rouge. Alors on rend compte à son procureur, qui rend compte à son procureur général, le tri se fait en haut et ça vous échappe complètement.
Je me souviens, par exemple, d'un type, Joigny Chavel. Il n'avait pas un sou. Il était membre du sac. Et soudain, il achète un château considérable. Il y organise des fêtes somptueuses. On y croise des politiques et des flics. Et personne ne se pose de questions.
Et ça a fini comment?
Un jour, il part faire une partie de chasse. On ne le reverra jamais. Il est tué en octobre 1973, vraisemblablement par le gang des Lyonnais. On ne retrouvera jamais son corps.
Et d'où venait cet argent, d'après vous?
Je pense que Chavel réinvestissait sa part du hold-up de Strasbourg ou d'autres choses. Le milieu s'est dit, c'est trop voyant, on va se faire repérer.
Vous évoquez la présence de policiers à ces fêtes, des corrompus?
Sous prétexte de faire de la pénétration du milieu, plusieurs ont été corrompus. Ils avaient souvent des carrières fulgurantes. C'est d'autant plus scandaleux que tout ça avait lieu sous les yeux des élèves de l'école de police de Saint-Cyr du Haut-Mont-d'Or.
Mais je veux dire une chose. Il y a toujours eu aussi des policiers animés par une vraie déontologie. Ils avaient souvent aussi des engagements cathos, protestants ou francs-maçons. Tous ces comportements marqués par la guerre d'Algérie ne leur convenaient pas.
La guerre d'Algérie, toujours.
Oui, c'est important. Mais il faut aussi considérer le contexte européen.
C'est-à-dire... J'arrive au palais de justice de Lyon en 71, à la section financière. On sentait l'emprise du milieu sur la ville. Le contexte était très tendu. En Allemagne, avant 68, est née la fraction Armée Rouge. Et le syndicat de la magistrature est devenu le correspondant en France des juristes progressistes allemands et italiens. Des mouvements étudiants ont commencé assez tôt en Italie. Il y a des liens forts entre Lyon et l'Italie. Il faut se rappeler que de 68 à 75, en Italie, il y a des attentats, des policiers assassinés, des magistrats enlevés. Derrière tout ça, il y a une stratégie de la tension, orchestrée par l'extrême droite, créer le désordre pour discréditer les partis de gauche et installer un régime autoritaire. Avec sans doute le soutien des services secrets états-uniens, le réseau Gladio, chargé de lutter clandestinement contre les communistes en Europe. Des juges italiens anti-mafia sont également assassinés, comme Francesco Ferlaino. C'était le 3 juillet 75, figurez-vous.
Le même jour que le juge Renaud.
À ce moment, aviez-vous à l'esprit qu'on pouvait aussi tuer un juge en France ?
Bien sûr. On est dans un contexte de guerre urbaine, en Allemagne et en Italie. Un attentat à Milan fait 16 morts et 88 blessés, en décembre 69. L'extrême-gauche est d'abord accusée, alors que l'ombre de mouvements néofascistes plane finalement sur cet attentat. Même scénario à la gare de Bologne en août 80. 85 morts et plus de 200 blessés. Selon vous, pourquoi la France n'a-t-elle pas basculé? En France, on a un correctif efficace. C'est le souvenir de mai 68 et de la guerre d'Algérie. Les gens avaient intégré que quand on passait une certaine limite dans la contestation, ça pouvait échapper à tout contrôle. Qui ça on? Les étudiants, par exemple. Ou les juges. À l'époque, le syndicat de la magistrature était très actif dans les universités. On débat d'une société nouvelle du point de vue des flics. On fout le bordel et ça va finir comme en Italie. Un jour, un policier de haut niveau me dit « Monsieur Colcombet, s'il faut vous arrêter, je n'hésiterai pas. » Et le juge Renaud, dans ce contexte? Ah, lui, c'était un colonial. Il arrivait d'Afrique. Il avait une expérience concrète, forte et variée de son travail. Et il avait fait de la résistance. Bref, un homme de terrain. Il était très apprécié pour ça, même s'il faisait un peu tâche à Lyon. Un style lyonnais? Le style lyonnais dans la magistrature, c'était « on porte une cravate, mais pas neuve. On porte un costume, mais un peu râpé. Et à partir de juillet, on a le droit de porter une chemise Lacoste. Vous voyez le genre. » Renaud, lui, il en rajoute. Il porte des chemises roses, il porte beau, il fait du sport, il est coureur, ça fait jaser. Mais ça le rend très sympathique aux policiers. Comme il est très efficace, le parquet lui refile les affaires explosives, comme le hold-up de Strasbourg. Justement, évoquons votre déclaration choc à l'émission Les dossiers de l'écran. On est le 7 mai 1974, 2 jours après le premier tour de l'élection présidentielle. Le 27, Giscard sera élu face à Mitterrand. Et vous dites « Nous espérons ne pas avoir à découvrir que le hold-up de Strasbourg n'a pas servi à acheter des hommes politiques. » Vous pouvez nous en dire plus?
Changez tout, pour une vie qui vaut le coup. Changez tout.
Il faut se souvenir qu'à l'époque, il n'existait pas de loi sur le financement des partis politiques. L'argent, ils le prenaient partout. Il n'y avait pas de contrôle. Tous les partis se débrouillaient comme ils pouvaient. Moi, avant l'émission, je savais que Renaud instruisait sur le gang des Lyonnais. Il avait compris qu'il bénéficiait de complicité à haut niveau. À Lyon, nous connaissons bien les liens entre le sac et les truands. Et la somme du hold-up de Strasbourg était tellement importante qu'il fallait bien un habillage pour la réinvestir. J'en étais là et on m'a muté à Paris, juste avant cette fameuse émission. Et après sa diffusion, vos supérieurs ont réagi comment? Vous avez été convoqué? Pas du tout. Je suis président du syndicat de la magistrature, je suis convenable, j'ai une cravate. Et je me suis exprimé avec des subjonctifs et des doubles négations. Mais le juge, lui, y réagit.
Vous a-t-il reproché d'alerter ainsi les éventuels témoins?
Il m'a donné à penser que je le gênais dans son enquête, mais que sur le fond, ce que je disais n'était pas faux. Mais non, il m'a juste dit un truc du genre « T'as encore foutu la merde ».
Et l'enquête sur sa mort, vous en pensez quoi ?
Disons qu'elle a été strictement limitée à sa dimension criminelle.
Je n'ai jamais été interrogée, sauf 10 ans après, par le juge Fenech, qui a classé l'affaire.
C'est éloquent, non ?
Je crois que Renaud touchait à des choses que personne ne voulait voir.
Considérez-vous cette époque comme des années de plomb à la française ?
Plutôt que de savoir qui a appuyé sur la gâchette, j'ai toujours préconisé de chercher à savoir d'où venait l'argent des campagnes électorales pour trouver les commanditaires. En vain.
Vous savez, on sortait de la Deuxième Guerre mondiale et de la guerre d'Algérie, deux périodes brutales où les libertés étaient massivement violées. Aujourd'hui, on a l'Europe et on peut dire ce qu'on veut sans aller en tôle. Alors, au risque de vous surprendre, je dirais que ces années-là sont les derniers soubresauts d'une France qui accède durablement à la démocratie. Le grand phénomène de ces années-là, finalement, c'est l'installation de la paix.
Madame la République française, aurais-je le droit de dire ce que je pense? Si ce n'est pas le cas, je le prendrai comme le devoir de ma conscience. Vous savez bien que nombre de gens ne se reconnaissent plus dans la France et préfèrent s'enfuir au loin pour pouvoir y tenter leur chance. Votre république d'exclusion est une honte pour la nation, tout comme celle d'intégration qui va céder sous la pression. Vous n'avez point les armes qu'il faut pour pouvoir taire une conviction, ouvrant les vannes d'une folie que vous ne pourrez point contrôler. L'identité de tout un peuple ne peut s'écrire sur ce papier. Même plastifié, les droits de l'homme ne pourront plus être protégés. Madame la République française, aurais-je le droit de dire ce que je pense? Si ce n'est pas le cas, je le prendrai comme le devoir de ma conscience. Madame la République française, qui répondra de ses doléances? Je suis ni pute ni soumis, je suis un citoyen de France.
Et nos deux gaillards reprennent la route du retour.
Elle était où exactement la ligne de démarcation?
À mon avis, on vient de la franchir.
Et moi, je viens de vous lire 45 pages de BD explosive. Et je continuerai à la prochaine occasion, parce qu'il y en a 217. Et c'est tout du même tabac. On s'ennuie pas une seconde. Enfin, vous, j'espère, mais moi, pas du tout.
Je vous remercie de votre écoute et à très vite.
Et la justice, qu'en pense-t-elle, puisqu'elle ne peut point s'exprimer? Elle s'exécute convenablement sous la pression de l'Élysée, mettant en cause l'un des fondements de la structure démocratique. On interfère dans les affaires quand ces dernières deviennent critiques, usant des procédés injustes, des républiques bananières, comme un joker sorti de sa manche que l'on appelle raison d'État. Mais quand l'État manque de raison, c'est la balance qui penche et on se cache derrière s'injuste, tout comme une femme sous la burqa. Madame la République française, aurais-je le droit de dire ce que je pense? Si ce n'est pas le cas, je le prendrai comme le devoir de ma conscience. Madame la République française, qui répondra de ses doléances? Je suis ni pute ni soumis, je suis un citoyen de France. Je suis ni pute ni soumis, je suis un citoyen de France. Dans la chambre des députés, on appelle au dialogue de sourds, et sa chante et sa caquette pour être le coq de la basse-cour. C'est le bordel dans cette piole, faudrait penser à faire le ménage. La dernière fois que cela fut fait devait dater du Moyen-Âge. Chacun y va de son coup de gueule, donnant ses lois incohérentes. Mais commencer par s'écouter serait peut-être la base d'une bonne entente. Messieurs les députés de France, souriez donc, vous êtes filmés. Vous êtes devenus les nouvelles stars de cette France réalité. Madame la République française, aurais-je le droit de dire ce que je pense? Si ce n'est pas le cas, je le prendrai comme le devoir de ma conscience. Madame la République française, qui répondra de ses doléances? Je suis ni pute ni soumis, je suis un citoyen de France. suis assis.